podcast Parents pour le plaisir, un podcast pour les parents parfois en galère qui veulent trouver la joie de la parentalité en Dieu le Père.
Bonjour, c'est Rachel.
Moi, c'est Nico.
Et moi, c'est Chloé.
Dans notre dernier épisode, que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas déjà fait, on a évoqué la notion de stratégie familiale réfléchie et le lien entre le projet de Dieu et notre projet de famille. Chloé, est-ce qu'aujourd'hui, tu veux nous parler un peu de ce qu'on va aborder ?
Ouais, comme on l'a dit dans l'épisode précédent, en fait, on a parlé du présent, établir une stratégie familiale réfléchie, et aujourd'hui, on parle du futur. On aborde le sujet de notre motivation. Et j'ai une concession à vous faire. Avec certaines copines, mamans de l'école où vont mes enfants, on a un groupe WhatsApp où on communique pour se retrouver les mercredis et on se dit souvent, est-ce que mercredi, tu es dispo pour partager la misère ? Et on l'utilise de manière un peu humoristique. Ce qu'on veut dire, c'est que parfois, les mercredis, c'est pas hyper drôle d'être toute seule avec nos enfants et que de partager ces temps-là avec d'autres parents, d'autres enfants, ça allège un peu notre misère. Et voici cette réalité à laquelle on fait face en tant que parents, c'est que, en fait, c'est pas toujours un plaisir. Le podcast a beau s'appeler « Parents pour le plaisir », c'est pas toujours un plaisir. Et souvent, il y a des moments ou même des saisons beaucoup plus longues où on est vraiment la tête sous l'eau et qu'on a du mal à apprécier nos enfants. Mais voici un principe qui va nous aider à faire face à cette réalité, c'est que une vision claire du résultat qu'on espère, du but vers lequel on va, ça va nous aider à persévérer et à même trouver du plaisir dans ces moments ou ces saisons plus difficiles. Et donc, deux questions autour desquelles on va axer notre discussion aujourd'hui, c'est, première question, qu'est-ce qui nous motive actuellement dans notre parentalité ? Et deuxième question, qu'est-ce que Dieu dit au sujet de notre motivation ? Quelle vision de l'avenir et quel but ultime du projet familial on va trouver dans la Bible ?
Oui, donc on peut commencer avec cette première question, qu'est-ce qui nous motive actuellement ? Et c'est vrai que l'on soit conscient ou pas, chaque parent qui n'abandonne pas ses enfants va devoir trouver de la motivation quelque part pour persévérer dans son rôle. Et ce qui est quand même intéressant avant de parler de ce que la Bible dit à ce sujet, c'est de reconnaître qu'il peut y avoir tout un tas de motivations différentes. Par exemple, parfois, en tant que parent, on peut être motivé par la peur de tout ce qui pourrait arriver si on imagine les pires des cas et nos choix, nos décisions, parfois nos réactions sont très influencées par cette peur. Il y a aussi la motivation de la pression. Et là, je mets l'accent parfois sur une pression familiale, que ce soit de la part de ses propres parents ou des beaux-parents, même des grands-parents parfois, qui ont une certaine perspective, une certaine vision de la parentalité, qui se disent « tiens, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est surtout pas comme ça ». Et ça met une certaine pression sur nous. Il y a des parents qui gèrent très bien, qui arrivent à prendre du recul par rapport à ces influences-là, mais d'autres sont très influencés par ces attentes et par cette pression, qu'elle soit explicite ou implicite. Voilà, donc il y a un troisième qui est l'impact des potes. C'est quand même intéressant d'imaginer Chloé entourée par ses potes de l'école en train de discuter justement de la parentalité. Et qu'est-ce qui sort comme conseil, comme vision, etc. Quel impact, quelle influence, qu'on en soit conscient ou pas, sur ma vision de ma parentalité et même sur les choix que je décide de faire. Bon, on est en train de faire un podcast. Il y a aussi l'impact des podcasts et tout ce qui est réseaux sociaux, les influenceurs qui nous transmettent une certaine vision de la parentalité, des outils, des principes, parfois qui sont très, très bons et qui peuvent porter du bon fruit. Mais parfois, surtout en tant que chrétien, des choses qui ne sont pas du tout cohérentes avec la pensée de Dieu et son projet pour nous. Et donc, bon, voilà, on peut parler d'une cinquième, les pulsions ou les instincts. Et là, c'est ce qui me vient le plus naturellement à l'esprit et ça me fait penser à ce qu'on a discuté lors du dernier épisode, cette notion d'une parentalité en mode pilote automatique plutôt que de réfléchir et de chercher la sagesse et de trouver une bonne stratégie. Et je me laisse guider par mes propres désirs et mes réactions sur le coup.
C'est intéressant de voir la liste se dérouler comme ça parce que je sais pas vous, enfin toi probablement Nico, tu as beaucoup réfléchi à tout ça, mais je sais pas Rachel si on serait capable de dire qu'est-ce qui motive la plupart de mes décisions aujourd'hui en fait. Je crois que parfois on peut osciller entre l'un et l'autre, mais de les voir explicités comme ça, je pense que ça porte à réflexion pour moi, de me dire quand je prends une décision, quand je monte un projet pour ma famille. Qu'est-ce qui est le fuel derrière tout ça, en fait?
Oui, et puis parce que je pense que on a tous des anecdotes qui vont nous venir en tête où en fait on se retrouve quand même dans une situation où qu'on n'avait pas imaginé à l'avance. Et c'est plutôt après qu'on va réaliser, une fois qu'on a un peu, qu'on essaie d'analyser un petit peu ce qui s'est passé sur le moment, qu'est-ce qui a fait qu'on a réagi d'une telle manière, ça révèle justement assez de face. Il faut y réfléchir, mais ça révèle justement les motivations de notre cœur. Mais parfois, sur le moment, il faut faire quelque chose ou il faut dire quelque chose et on agit et on n'est pas for on est plus ou moins satisfait avec ce qu'on a fait. Mais c'est
Tout à
après qu'on
fait.
réalise.
Oui, ça me fait penser justement à un exemple. J'ai un peu honte de partager, mais quand mes enfants étaient plus petits, les moments les plus tendus en famille pour nous, pour moi en tout cas personnellement, et donc les tensions en moi étaient partagées pour toute la famille, malheureusement imposées un peu, c'était quand mes beaux-parents venaient à la maison. Et j'apprécie énormément mes beaux-parents, et franchement, il faut le dire clairement, mes beaux-parents ne mettaient pas du tout une pression sur nous, mais moi, je me mettais une pression, et je pense que c'était beaucoup lié au regard. Je voulais justement que mes beaux-parents me voient comme un bon papa qui gérait bien ma maison, et ça faisait monter la pression quand les enfants ne se comportaient pas comme je voulais, etc. Et ça rajoutait du stress. Et parfois, mes réactions les plus regrettables, je vais dire, étaient en lien avec cette pression-là, quoi.
Ouais, moi j'ai vécu exactement la même chose. Ma mère est à la maison cette semaine et mes enfants regardent beaucoup moins les écrans parce qu'elle est là, parce que j'ai juste pas envie qu'elle me juge en fait. Mais elle le fait pas, mais ou elle le fait peut-être. Bon, ça c'est une autre discussion. En tout
Tu lui
cas, je
poseras
pense
la
que
question après.
c'est. Ouais, c'est ça. C'est intéressant d'essayer de faire le tri parce qu'il y en a certaines qui vont être bonnes. Par exemple, tu parlais de la motivation des potes, il y a des amis qui peuvent avoir une très bonne influence sur nous et qui vont nous diriger vraiment vers des bonnes initiatives, etc. Mais dans ton cas, Nico, ce qu'il y a d'intéressant à essayer de réfléchir, c'est qu'on peut éplucher un peu nos motivations comme un oignon. La première motivation que tu as pu nous donner là tout à l'heure, c'était que tu avais envie d'impressionner tes beaux-parents. Mais finalement, si on épluche encore une couche derrière ça, qu'est-ce que tu dirais qu'il y avait au centre de cette envie d'impressionner?
Justement, encore une fois, la notion du regard revient. Et si je dis la vérité, ce n'était pas que avec mes beaux-parents. Dans différents contextes, comme dans mon cœur, je voulais impressionner, être bien vu. J'avais ce désir d'une certaine approbation de la part des autres. Finalement, sans que je sois à cette époque-là de ma vie très conscient même de cette influence intérieure. Et ce désir profond, j'étais quand même très motivé dans mes choix et souvent dans mes réactions, pas très réfléchies, par ce désir d'approbation de la part des autres, effectivement.
Je
Ouais,
pense que la
c'est.
parentalité, c'est un domaine par excellence où on est très conscient, on est observé. On l'a dit au premier épisode qu'en fait, on a appris des belles choses en observant d'autres familles. Et en fait, on sait que d'autres personnes vont par exemple attendre voir comment on réagit lorsque notre enfant, par exemple en public, va désobéir de façon flagrante. Bah, en fait, moi, j'ai toujours été consciente qu'on me regardait. Et j'arrivais pas toujours à prendre la bonne décision, coupée du regard des autres. Après, on le voit dans tous les domaines de notre vie qu'il y a cette crainte du regard de l'autre qui influence.
Oui, je pense que c'est intéressant de discuter de la pression comme un motivateur, mais si je dois parler de la peur, par exemple, qui était un autre motivateur que tu as cité, Nico, moi, je peux observer autour de nous, et peut-être chez nous aussi, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai clairement identifié encore, que la stratégie familiale, et surtout dans le domaine de l'indépendantisation de nos enfants, par exemple, peut être vraiment guidée par ces craintes de qu'est-ce qui peut arriver si.
Tout à fait.
De laisser son enfant rentrer tout seul. On n'est pas en train de se dire, tiens, ce sera bon pour lui, pour son projet de devenir un adulte, en quelque sorte, mais c'est plutôt guidé par, mais il pourrait arriver ci, il pourrait arriver ça, et donc je ne fais pas ça. Et dans ce cas-là, le moteur de la peur est un moteur qui freine justement plutôt qu'autre chose. Est-ce que tu as déjà observé, Nico, ou toi, Rachel, des fois où, quand on n'a pas conscience du moteur ou de la chose qui nous motive, ça va avoir des conséquences juste désastreuses dans la famille?
Jamais.
Merci, Rachel.
Ouais. Je, comme quelqu'un qui a beaucoup lutté avec mes émotions réactionnelles, mes réactions émotionnelles, je suis très impacté justement, très touché par ce sujet. Et si j'ai vraiment à cœur d'aborder le sujet et de parler de cette notion de réfléchir, c'est parce que pendant trop longtemps, j'étais un peu esclave de mes propres réactions. Absence d'une stratégie claire, d'une réflexion biblique, même si j'avais des principes bibliques et j'avais lu des bouquins, etc., ce qui manquait dans mon cas, c'était quand même une capacité de vraiment examiner ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et donc, oui, bon, j'ai tout un tas d'exemples malheureusement dans ma tête où, faute de stratégie claire et de vision claire, j'étais plutôt dans la réaction et ça portait du mauvais fruit.
On aura plein d'occasions d'en entendre parler dans les épisodes qui viennent.
C'est clair.
Sûrement, sûrement. Et justement, la Bible s'intéresse beaucoup à cette question de motivation, qui est aussi une question du cœur, en fait. Se poser cette question, qu'est-ce que je veux vraiment? Et du coup, on ne s'intéresse pas tant à la question du quoi, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais sur le moment, mais du pourquoi. Et ça, on le vit aussi dans notre parentalité en tant que parent. On ne s'intéresse pas juste à ce que mon enfant fait, mais on s'intéresse et on veut s'intéresser surtout à pourquoi il le fait. Qu'est-ce que cette question de motivation du cœur nous amène à réfléchir quand on parle de motivation bibliquement?
Je pense que c'est bien de formuler les choses comme ça parce que cette question de motivation du cœur, comme tu l'as dit, c'est la question qui préoccupe Dieu au plus haut point. C'est pas tellement les choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas, mais pourquoi on les fait. Et la Bible, elle va faire un lien entre les motivations du cœur et ce qu'on adore, en fait. Dans quelle direction est-ce qu'on va donner notre attention, notre énergie, nos actions? Et en fait, en regardant ces directions-là, on va trouver au bout en général ce qu'on adore ou la personne qu'on adore. Et toutes les choses qui ne sont pas Dieu dans notre vie, toutes les choses qu'on va adorer qui ne sont pas Dieu, la Bible va les nommer des idoles. Pas des petites statuettes en bois du monde antique, mais des choses qui prennent tellement de place et d'importance dans notre vie qu'elles deviennent des idoles. Et c'est un peu ce qu'on discutait avec toi, Nico. Désolée de te mettre les pleins phares sur ta situation de vie, mais quand on disait, bon, j'étais motivée par ce que je voulais montrer à mes beaux-parents, et puis on enlève encore une couche et on découvre que finalement, tu es motivée par toi-même, en fait, finalement, le fait d'être bien vue, d'être bien considérée par les autres, c'est que pour toi, le motivateur, c'était que Nico réussit, Nico est un type bien. Et on parle de Nico là, mais en fait, voilà, je plaide coupable. Le prochain épisode, c'est moi qui y passe. C'est
Amen.
que en s'intéressant, en tirant un peu le fil de une situation, qu'est-ce qui me motivait? Et poser une deuxième fois la question, mais qu'est-ce qui me motivait vraiment? En général, on va arriver à ce qu'on appelle une idole. Et c'est pas toujours facile de faire le lien, Nico, entre une situation qu'on vit et la chose qui a remplacé Dieu dans notre cœur à ce moment-là. Est-ce que toi, tu aurais des choses un peu concrètes à nous donner pour qu'on puisse réussir à faire ça, pour qu'on puisse ensuite mettre en lumière qu'est-ce qui nous
Ouais.
sépare de Dieu et traiter ce problème, quoi?
Tout à fait. Et ça me fait penser à un texte de l'épître de Jacques qui m'a toujours troublé et même, je pourrais presque dire dérangé. Jacques chapitre 1, verset 2, qui dit, en fait, qui nous invite à considérer comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles on peut être exposé. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance, etc. Et en fait, il y a un lien très fort entre ce passage et le titre de notre podcast, Parents pour le plaisir. Parce que comme tu as dit en introduction, Chloé, c'est pas forcément toujours un plaisir. Justement, parfois, on peut vivre la parentalité comme une vraie épreuve. Et la question se pose, où est la joie là-dedans? Et donc, c'est fascinant de revisiter mon expérience à table, par exemple avec mes beaux-parents. Il y a un de mes enfants qui se comporte mal, et là, j'ai une réaction. Et bon, comme je cherche l'approbation de mes parents, je vais rien faire sur le coup devant eux, mais c'est plus tard, quand je suis tout seul avec mon enfant, que hop, mon émotion va sortir, il y aura un reproche. Peut-être pas très douce et qui cherche pas forcément le bien de mon enfant, mais qui est finalement très égoïste. Et pendant longtemps, il y avait aucun plaisir pour moi dans cette expérience-là. Il y avait aucune joie dans une telle épreuve. Juste des regrets après une situation mal gérée, etc. Mais en fait, ce qui est fascinant avec cette notion d'idole, c'est que quand je commence à comprendre la sagesse de la Bible, je reconnais que en fait, c'est dans l'épreuve, y compris dans les moments de friction familiale, que Dieu nous donne un aperçu de ce qui se passe dans nos cœurs. Et il y a le potentiel qu'un moment tendu comme ça à table, pour moi avec mon enfant, en face de mes beaux-parents, se transforme en moment révélateur qui me donne un aperçu de quelque chose que Dieu a envie de changer en moi. En fait, il y a un plaisir, une joie qui est même possible quand je commence à comprendre, eh bien, ces moments de friction avec mon enfant. Bon, ça peut être pareil pour mon époux aussi, mes collègues, mais là, accent sur la parentalité, et bien là, le Seigneur a quelque chose de prévu, il veut changer quelque chose dans mon cœur.
C'est fou parce qu'en fait, j'ai l'impression que ce que tu dis là, c'est que Dieu, il est en train d'essayer de rerouter notre cerveau complètement. Parce que
Amen. Oui.
ce qu'on a tendance à considérer comme joie ou quand on est heureux, c'est quand on est confortable. Et donc, cette situation où nos enfants se comportent parfaitement devant nos beaux-parents, on est confortable. Après, c'est bien, on est à l'aise. On se dit qu'on a bien réussi. Et en fait, Dieu, c'est pas son but. Lui, il veut nous rendre comme lui. Donc, il va faire en sorte que ces situations de parentalité de tous les jours fassent surgir les choses moches qu'il y a dans notre cœur, quoi, pour les transformer.
Je pense que du coup, enfin, si je veux résumer un peu ce qu'on dit là, on est en train de dire que ces tensions, ces frictions qui arrivent entre parents et enfants, en fait, enfin, elles sont indicateurs d'un problème, donc il y a vraiment quelque chose qui se passe, mais elles indiquent en fait finalement au plus profond de nous-mêmes ce qui nous motive, ce qui sont nos désirs. Enfin, moi, je pense très souvent à des exemples que j'ai où finalement, en fait, ce qui se passait avec mon enfant perturbait mon désir d'être en paix, en fait, d'être tranquille, d'être tranquille, je pense que c'est le bon terme. Et en fait, finalement, le problème n'était pas au niveau de ce que mon enfant attendait de moi, mais c'était dans ma réaction. Moi, ce que je voulais sur le moment, c'était être laissé tranquille, quoi. Mais dans ce cas, enfin, qu'est-ce qui devrait nous motiver, selon la Bible?
Eh bien, cette question me fait penser directement à un des textes clés de cette petite série d'articles qu'on a évoqués pendant le premier épisode concernant la parentalité en mode pilote automatique, où en fait on a mis l'accent sur l'épître de Tite. Et là, peut-être je peux juste lire quelques versets de chapitre 2, versets 11 à 14, que je trouve vraiment extraordinaire à ce point-là. Donc, chapitre 2, verset 11, en effet, c'est Paul qui parle à ce jeune pasteur Tite. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Et là, on parle de projet familial. Dans ces versets, on a un aperçu d'un projet vraiment extraordinaire. Ce Dieu qui a envoyé son Fils Jésus-Christ, justement, afin de faire tout le nécessaire pour nous apprendre à vivre une nouvelle vie. Et un composant essentiel de ce projet concerne justement notre avenir. Christ est venu pour racheter un peuple, pour purifier un peuple pour lui-même. Et cette notion d'une bienheureuse espérance, c'est ce qu'on appelle parfois aussi notre espérance chrétienne, c'est que le projet familial de Dieu, c'est vraiment ancré, enraciné dans des réalités futures. Ce que Dieu est en train d'accomplir pour se faire une famille aujourd'hui, c'est toute une préparation pour un avenir extraordinaire dans sa présence. Et donc, quelque part, je pense que notre vision de la parentalité s'enracine pas simplement dans le projet de Dieu pour aujourd'hui, où Dieu veut révéler sa gloire dans des familles qui fonctionnent bien, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, il veut attirer des personnes à lui, mais il nous prépare un avenir extraordinaire. Et je pense pour nous, en tant que parents, il y a une motivation puissante à trouver là-dedans, en creusant cette notion d'espérance chrétienne.
Est-ce qu'on pourrait peut-être essayer de revisiter cet épisode de Nico à table avec ses beaux-parents? Et si tu pourrais dire, selon toi, qu'est-ce que ça aurait changé si à ce moment-là, tu avais peut-être pu faire une pause en te disant, je vais non pas vers la satisfaction de mon désir d'être bien vu, mais je vais vers ce jour final où toutes les familles de la terre seront devant Dieu et où Christ sera là.
Tout à fait. Bon, un élément que j'ai pas évoqué dans mon introduction à cette notion de bienheureuse espérance, c'est la notion du jugement. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de beau et d'extraordinaire que Dieu prépare pour nous tous, mais c'est aussi vrai que c'est de l'autre côté d'un jour de jugement où chaque être humain rendra des comptes pour sa manière d'agir. Et la Bible nous prépare pour ce jour-là. Ce qui est quand même motivant pour moi en tant que parent, c'est de savoir que, et en tant que papa, ce jour-là, je vais apparaître devant mon Dieu et je rendrai des comptes, pas simplement pour ma manière d'agir, mais aussi pour ma manière de gérer mes relations avec les personnes que mon Dieu a mis sous ma charge, en fait. Et donc, j'ai des comptes à rendre quant à ma relation avec ma femme. Comment est-ce que j'ai géré cette relation-là? J'aurai des comptes à rendre aussi concernant ma relation avec mes enfants. Et franchement, je dois avouer que alors que pendant les premières années de ma vie de parent, et même une bonne partie de ma vie de parent, j'avais pas trop cette image en tête d'un jour de jugement. Alors que aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très présent pour moi, le fait que j'ai une charge que Dieu m'a confiée et un jour, je vais rendre des comptes devant mon Dieu quant à cette charge. Et donc, en fait, si je commence à sentir à table qu'il y a des émotions qui montent en moi et j'arrive à ne pas réagir tout de suite, à re reconnaître, Nico, garde ta bouche fermée, prends ton temps, réfléchis, prie peut-être. Alors là, une chose que le Seigneur risque de me rappeler quand son esprit commence à me parler pour calmer mon cœur, pour m'aider à me repositionner, c'est le fait que Nico, ses enfants sont sous ta charge. Et ta réaction maintenant va beaucoup communiquer à tes enfants. Là, tu es là pour me représenter et tu as une responsabilité de répondre dans l'amour.
Je pense que j'ai une expérience un peu similaire de comment la perspective du ciel et du jugement ont impacté ma parentalité. C'est que un jour, j'ai réalisé que la relation maman-fils n'existerait pas au ciel et que la seule relation qui existerait, ce serait frère et sœur. Et que donc, j'aurais à rendre des comptes par rapport à comment j'ai traité mes enfants, non pas en tant que mon fils ou ma fille, enfin, ou certainement sous une certaine forme, mais aussi et d'abord en tant que frère ou sœur en Christ, Dieu voulant. Et donc, ma réflexion, c'est, mais comment est-ce que j'aurais contribué à discipuler mon enfant qui, finalement, je l'espère, sera mon frère en Christ. Enfin, c'est très difficile à réfléchir en ces termes-là parce que quand on est dans la petite enfance, le lien de parent-enfant est très asymétrique, mais en grandissant, il va devenir de plus en plus symétrique, de plus en plus de vis-à-vis, d'égal à égal, et de me dire que, en fait, ces petits êtres-là, un jour, seront à côté de moi devant le trône de Dieu et qu'auront-ils à dire sur ma façon de contribuer à leur formation, en fait.
Tout à fait. Je trouve que c'est pas facile, les amis, de garder ces vérités en tête. Il y a un vrai effort. Rachel, je ne sais pas comment toi tu vis ça, mais personnellement, ce que Chloé vient de décrire et aussi avec mon anecdote, je trouve que c'est pas naturel de penser à la fin, de garder en tête la réalité d'un jugement à venir et de me laisser motiver par ces choses-là. Quelle est ton expérience avec ça?
Quand je pense à ça, c'est sous un angle un petit peu différent, même si j'ai aussi vécu ce que vous avez décrit, vous. Moi, c'était dans la réalité de la souffrance que nos enfants peuvent vivre maintenant, parce qu'en fait, de façon naturelle, on voudrait les en préserver. Mais dans notre famille, deux de nos enfants ont vécu des situations de harcèlement à l'école. Et une partie de moi, enfin voilà, voulait absolument les en préserver au maximum et souffrait avec eux. Et bien évidemment, on a tout fait, tout ce qu'il fallait, mis en place, etc., pour que ça cesse et qu'ils soient bien accompagnés. On n'a pas du tout trouvé plaisir dans le fait qu'ils étaient harcelés. En revanche, ce que moi j'ai vu, c'était une occasion extraordinaire pour eux de voir qu'ils avaient un Dieu qui les aimait et qui était bon envers eux, et qui avait de la compassion pour eux. Et j'ai vu en fait sous un autre angle en fait cette épreuve dans la perspective de l'espérance, dans le fait que ça allait préparer aussi eux à vivre tout ce qu'ils pourraient avoir à vivre dans les années à venir comme difficulté, en apprenant à compter sur Dieu en fait. Et que quand ils étaient dans leurs plus jeunes années et qu'ils étaient donc avec nous, leurs parents, on pouvait vraiment utiliser ces opportunités pour les pointer plus loin que ce qu'ils vivaient sur le moment, qui est très, très naturel chez des enfants et des ados. Ils vivent vraiment le moment présent, ils ne se projettent pas énormément. Et ben voilà, on a essayé aussi de leur montrer, en fait, ce moment-là définit pas toute ta vie. Et surtout, en fait, Dieu est présent dans cette souffrance. Et Jésus a donné sa vie pour toi, pour que tu sois réconcilié avec Dieu. Et en fait, ta vie ne se résume pas à ça. Où est-ce que tu te situes dans cette perspective éternelle, en fait? Donc, finalement, d'utiliser une situation de souffrance, d'épreuve pour eux, qui était difficile à vivre, mais en tant que famille, on a pu vraiment voir comment Dieu nous a enseigné, en fait, à travers ça, dans cette perspective d'espérance.
Je trouve ça chouette parce que là, du coup, on a deux exemples très différents de comment la notion de notre futur glorieux en la présence de Dieu va transformer notre parentalité, que ce soit par rapport à nos propres réactions, mais que ce soit aussi par rapport au quotidien de nos enfants et de ce qu'ils traversent et de comment on va les enseigner ou les guider à naviguer ces situations un peu difficiles. Donc, je trouve ça chouette qu'on ait eu deux aperçus très concrets en fait de comment notre futur impacte notre parentalité et notre stratégie familiale réfléchie.
Excellent. Donc pour résumer peut-être l'essentiel pour cet épisode concernant notre stratégie familiale, c'est vrai que la Bible nous encourage à commencer avec la fin, ce qui n'est pas facilement, c'est pas toujours évident en fait. Mais la fin dont il est question, c'est la réalité du retour de notre Seigneur et Jésus-Christ, un jugement individuel et aussi universel, et aussi le plaisir de sa présence, la joie d'appartenance à sa famille pour toute l'éternité. Un plaisir et une joie qui dépassent tout ce que l'on peut comprendre et comme on vient de voir avec ces anecdotes, ça a des implications concrètes pour nos vies de tous les jours avec nos enfants.
Chers auditeurs, la dernière fois, on vous avait proposé comme une action concrète à prendre suite à l'écoute de ce podcast, c'était de créer un journal familial. Je ne sais pas si vous l'avez fait, Mais si vous l'avez fait, voici quelques idées clés de cet épisode que vous pourriez commencer à brainstormer dans votre journal familial. Est-ce que vous pourriez commencer à réfléchir au lien entre votre quotidien et la bienheureuse espérance que vous avez en Jésus-Christ? Et pour faire ça, vous pouvez peut-être démarrer une discussion avec un de vos enfants, avec votre époux ou un ami de la famille, pour brainstormer sur qu'est-ce que la Bible dit concernant notre espérance en Christ et de voir si vous êtes capable d'expliquer en quoi vous-même vous êtes personnellement motivé par cette vérité puissante.
Excellent. Alors, on a parlé là pendant cet épisode hein, de la parentalité avec un regard sur le futur, avec cette espérance qu'on a et comment ça impacte notre quotidien. Dans le premier épisode qu'on vous invite à écouter si vous ne l'avez pas encore fait, on a parlé du présent. Donc, en toute logique, pas forcément chronologique, mais logique quand même, au prochain épisode, on va parler du passé. Et en fait, en quoi notre passé impacte notre parentalité. Quels sont les enjeux aujourd'hui qu'on vit dans notre parentalité qui ont un lien avec notre vécu, notre passé. Donc, rendez-vous au prochain épisode pour discuter de cela ensemble. Et Nico, je vais te laisser conclure pour celui-ci.
Oui, avec une courte parole de bénédiction, voici ma prière pour nous, que Dieu nous guide, qu'il nous aide à garder devant nos yeux cette bienheureuse espérance, le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et que ce jour soit un jour de grande joie pour nous, aussi bien que pour nos enfants, par la grâce de Dieu. Amen.
Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Parents pour le plaisir. Notre prière, c'est que tu connaisses concrètement cette semaine le plaisir d'être toi-même enfant de Dieu.